Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de la Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans les coulisses de la construction d'une émission que vous allez écouter à l'issue de celle-ci. En partant à la découverte donc, de l'École régionale du travail social, c'est une école qui est située à Olivet et qui forme des étudiants en travail social au métier de moniteur, éducateur, éducatrice, éducateur, éducatrice spécialisée, technicien, technicienne d'intervention sociale et familiale, etc., etc., avec 4 étudiants qui sont venus nous rencontrer pour mettre en place un projet. Il s'agit de Samuel, Ulysse, Alexandre et Jonathan. Bonjour à vous, messieurs.
Bonjour,
bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Alors vous allez peut-être rapidement vous présenter avec votre prénom et puis la filière que vous suivez cette année.
Donc moi c'est Samuel, je suis en première année de moniteur éducateur.
Alors attends, vraiment près du micro, hein, je suis désolé. Hein.
C'est mieux comme ça là?
Vas-y.
Donc bonjour, moi c'est Samuel, je suis en première année de moniteur éducateur, donc à l'école de l'ERTS d'Olivet.
Bonjour à tous, moi c'est Ulysse, je travaille donc dans le médico-social, je suis en formation de moniteur éducateur à l'ERTS d'Olivet.
Bonjour Alexandre, moi je suis déjà moniteur éducateur, je travaille en CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, je suis actuellement en première année de moniteur éducateur.
Et bonjour à tous, moi c'est Jonathan, donc je suis étudiant moniteur éducateur à l'ERTS d'Olivet.
Alors rapidement, pour expliquer à nos auditeurs, auditrices, auditrices, ce qui est le métier de moniteur éducateur éducatrice?
Oui, alors le métier de moniteur éducateur, c'est on accompagne des personnes qui sont en précarité ou personnes handicapées. Ça dépend après le secteur.
Donc en CHRS comme toi, en ou CHRS. Alors dans quel type d'établissement également?
On peut être aussi en protection de l'enfance dans les MEX ou des foyers.
Maison de l'enfant à caractère social.
Voilà. Donc c'est des jeunes qui sont confiés par le juge, qui ont été victimes en majorité.
On peut travailler aussi donc, dans des foyers d'accueil médicalisés en accompagnant des personnes handicapées, qu'elles soient de troubles psychiques ou des troubles liés à des défaillances motrices.
Très bien. Et vous avez un projet à mettre en place. Alors pourquoi vous devez mettre en place un projet dans le cadre de vos études?
Alors en fait, dans le cadre de nos études, on a différents projets à monter dans l'année, donc sous forme de TD.
Travaux dirigés.
Travaux dirigés, oui, pardon. Pour notre dernier TD donc, de l'année, on doit travailler sur le travail social dans le débat. On avait le libre choix du sujet. C'était pour aussi mobiliser les gens. Donc nous, on a choisi de travailler sur un sujet auquel on parle régulièrement, mais on va plus nous s'arrêter sur l'aspect du coming out avec en fait les conséquences d'un coming out chez les 14-25 ans.
D'accord, très bien. Et donc pour cela, vous êtes parti à la rencontre de professionnels ou même de représentants du monde associatif. Vous êtes également parti dans la rue recueillir des témoignages. L'idée, c'est que votre émission serve de base à un débat qui va finaliser l'émission en quelque sorte. Vous allez terminer l'émission avec des questions ouvertes que chacune pourra dont chacun chacune pourra s'emparer pour échanger les points de vue avec les uns les unes les autres. Ce que je vous propose, c'est que maintenant que vous avez fait les présentations, on accueille des invités, puisque cette émission s'est faite en collaboration avec des bénévoles, des personnes qui travaillent à Radio Campus, et on va donc poursuivre cette émission avec des échanges sur le sujet du coming out. Alors on commence tout de suite avec une question que je relaye, puisqu'elle a été en fait formulée par Lucie lors de la conférence de rédaction et de prévision pour la préparation de cette émission, et cette question est: pourquoi la tranche des 14-25 ans?
Alors en fait, nous, on a choisi la tranche des 14-25 ans parce qu'on s'est dit, 14 ans, beaucoup de jeunes commencent à se poser des questions. On s'est dit, est-ce qu'ils ont les moyens d'avoir l'écoute? Parce que c'est important à ce moment-là d'avoir de l'écoute. C'était aussi un moyen de se dire, ils ne sont pas seuls. Parce qu'il y a beaucoup à cette période, on a au collège beaucoup de moqueries, beaucoup de harcèlement. Donc on s'était dit, voilà, il faut commencer déjà à les accompagner jeunes. Voilà. C'est beaucoup des jeunes qui sont aussi en précarité, cette tranche 14-25 ans. Donc pour nous, c'est important de cibler cette tranche d'âge-là.
Et puis c'est aussi une tranche d'âge qu'on accompagne beaucoup, que ce soit ou dans les MEX ou dans les CHRS. Et puis c'est le public le plus précaire. Disons que les jeunes qui se dévoilent peuvent être rejetés et donc se retrouver dans des foyers où à 25 ans, finalement, c'est l'âge où on recherche un emploi, etc. Et on n'est pas autonome. Donc cette précarité peut les rendre très fragiles. Donc c'est un âge où nous, on est susceptibles d'accompagner ces personnes-là. Ouais.
Eh bien, je vous laisse interviewer vos invités.
Donc oui, alors donc nous, voilà, c'est vrai que le sujet, c'est un sujet qui se nomme donc le coming out. Alors c'est vrai que c'est un mot qui aujourd'hui peut faire peur à certaines personnes. Il y en a aussi qui ne connaissent pas cette notion du coming out. Donc déjà, on va voir avec vous un peu si vous aviez des choses à nous dire par rapport à ça.
Bah, moi, c'est un mot que j'affectionne pas particulièrement parce que je trouve que l'idée de sortir un peu de l'ombre, sachant qu'on parle d'une frontière entre le personnel et la vie publique, je trouve ça un petit peu délicat, sachant qu'en fait, notre sexualité, elle nous regarde par rapport à nous et on n'a pas besoin d'avoir le regard de la famille ou de la société pour ça. Même si, évidemment, aujourd'hui, c'est important. Donc, quand on parle des minorités, c'est les minorités, évidemment, qui sont, d'une certaine manière, d'après Foucault, pathologisées et minorisées d'un point de vue politique et social. Donc, dans les règles gouvernementales, on sait que, par exemple, le mariage pour tous, ça fait 10 ans. Mais avant, il n'y avait rien du tout pour légaliser tout ça. Et ensuite, d'un point de vue médical, le sida a souvent fait peur en termes de maladies qui discriminaient les personnes homosexuelles. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser sur l'idée du coming out, parce que c'est des choses qui font peur, même si on se sent bien dans sa peau. Après, on n'a pas forcément envie de diffuser tout le temps ça d'une manière publique, parce qu'il y a ces images négatives dans la société, justement.
D'accord. Est-ce que, par exemple, pour toi, c'est est-ce normal de faire son coming out en 2023 ? Est-ce que c'est est-ce qu'on se sent obligé de le faire ?
Alors déjà, je ne sais pas pourquoi on dirait normal, sachant que la norme, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que on est libre de nos actions et de nos pensées. Heureusement, en France, on a quand même notre liberté d'expression et liberté de penser. Donc, par rapport à la norme, tout dépend de notre sensibilité. Si on se sent capable et qu'on a besoin de donner notre avis et surtout de, entre guillemets, s'exposer, parce que ça reste quand même quelque chose de l'ordre de l'intime, tout ce qui est relation sexuelle ou amoureuse, etc. Tout le monde n'est pas forcé de le savoir, même si, évidemment, ça veut beaucoup dire sur un individu. Et dans une société, on a besoin un peu de transparence quand même pour comprendre l'autre. Il faut une certaine bienveillance en sachant qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et ça fait partie de l'identité d'un individu. Mais en 2023, alors on pourrait penser qu'il faut plus de liberté d'expression et une plus grande ouverture d'esprit aussi des gens. Mais malheureusement, ça dépend de l'éducation. Parfois, il y en a certains qui sont dans l'incompréhension et qui n'osent pas forcément parler, ou qui ne comprennent pas forcément les sujets parce qu'il n'y a pas eu cette transmission, cette éducation. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation par rapport à l'homosexualité. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Et je pense que le mot-clé, ça serait la bienveillance, justement, pour être dans une situation de paix, entre guillemets, même si on n'est pas obéi des bisounours.
Entièrement d'accord.
Moi, concernant le fait de savoir si je suis à l'aise avec le terme de coming out, je trouve ça un peu bizarre comme terme, dans le sens où déjà, pourquoi il est anglicisé, parce que c'est comme les termes black ou les trucs comme ça. Enfin, je pense que il y a ce fond où on n'est pas forcément à l'aise, on sait pas comment l'utiliser. Puis moi, typiquement en français, je connaîtrais pas trop l'équivalent de coming out si je devais l'utiliser. Et je pense que on n'a pas, je sais pas comment dire, mais enfin moi, il m'est pas particulièrement à l'aise, parce qu'il n'y a pas non plus un hétéro out et puis sortir de quoi, en fait. Genre, on est juste comme ça, et puis c'est tout. Et Enfin, du coup, je ne vois pas de quoi je sors. Et du coup, cette connotation aussi de sortir qu'il y a derrière ce mot, elle traduit quand même une société qui est très hétérogenrée, en fait. En réalité, du coup, enfin, pour moi, ça traduit le fait qu'on sorte de quelque chose, mais qu'on sorte d'une société qui est hétérogène. Donc, c'est un peu spécial. C'est, j'accepte de sortir de la norme. Enfin,
en fait, d'une certaine façon, c'est, tu te caches, quoi, et tu sors justement de ce secret pour le dévoiler. C'est, en fait, ce terme-là, il veut dire ça, sortir du placard, c'est-à-dire que voilà, c'est ça.
Ouais, mais ce qui est gênant, c'est que ce terme, il est utilisé comme sortir du placard. Mais enfin, moi, si j'accepte et que je fais mon coming out, je ne me considère pas dans un placard.
Oui.
Je me considère comme tout le monde. Et le fait qu'on fixe cette étiquette en mode « vous sortez d'un placard », alors que non, juste je m'assume. Avant, je ne m'assumais pas forcément. Et du coup, maintenant, je le fais. Mais c'est juste le cadre dans lequel il s'inscrit et l'utilisation de la formule. Moi qui me gêne.
Tout à chacun, on ne se définit pas par notre orientation sexuelle. Quoi.
C'est, ça.
C'est vrai que c'est assez particulier pour les homosexuels de devoir se défendre par rapport à ça et d'une certaine façon de devoir le dévoiler et de dire que les autres te perçoivent comme ça, comme te définissant juste par ton orientation. Quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les hétéros.
Oui, puis justement, c'est ce qui crée la minorité dont on parlait tout à l'heure et ça. Tendance, plus on les regroupe, plus ils sont faciles à pointer du doigt et à stigmatiser. Et c'est pas forcément les mettre en valeur de faire ça. Donc je pense que l'idée de se justifier de sa sexualité à travers le coming out, c'est pas ce qu'il y a de plus inclusif, si je puis dire.
Puis on ne demande pas à des hétéros de se justifier sur leur orientation sexuelle.
Mais maintenant, si vous avez regardé le terme de coming out, il est très large. De cette façon, maintenant, c'est même plus dévoiler sur son orientation sexuelle, mais il y a maintenant sur sa religion ou sur ses idées politiques. Enfin, je veux dire, maintenant, coming out, il est tellement large que, voilà quoi. J'ai l'impression des fois même que coming out est maintenant de plus dire grand chose.
Alors c'est vrai qu'on parle donc du coup on parle là du coming out. Alors on sait que nous on a ciblé aussi les coming out où il y a bon, en effet il y a des coming out qui se passent très très bien hein, au niveau familial. Nous on a voulu venir sensibiliser aussi à travers ce travail, c'est parler des coming out qui sont avec du rejet, où ça se passe mal dans la famille, où on a des jeunes qui se retrouvent dans des situations précaires, qui vont vivre aussi de la violence intrafamiliale par rapport à cette révélation, qui vont aussi avoir des déviances autour de certaines addictions. On a même des jeunes hein, qui peuvent se retrouver à se prostituer par rapport à ça. Donc voilà, on a ces coming out qui sont vraiment négatifs. On a abordé cette question aussi du outing, où là justement, on perd en fait son coming out. En fait, ça ne nous appartient plus, il nous a été révélé par d'autres personnes. Et c'est là aussi, c'est dramatique. C'est au-delà de devoir dévoiler notre sexualité, on nous vole aussi cette annonce.
Oui, après c'est proche. C'est une chose importante.
C'est,
proche. Ouais.
Bah, c'est vrai que par rapport à l'annonce, on ne sait pas forcément quand le faire et ni comment. Parfois, ça arrive un peu sans qu'on ait rien prévu. Moi, par exemple, c'était mon cas. En fait, je suis partie en vacances avec mes parents. C'était assez récent. Après, ça faisait depuis longtemps que je voulais faire mon coming out, entre guillemets. Donc, j'en avais parlé avec ma sœur il y a 6 mois. J'avais senti un petit soulagement. Mais c'est vrai que de ma part, il y avait toujours un peu cette haine. Parce qu'une certaine incompréhension. Puis, je pense aussi, quand on est le seul homosexuel, entre guillemets, dans une famille. Nous, on est 5 enfants. Mes frères et sœurs sont un peu plus âgés, ils veulent tous des enfants, ils ont une 30aine d'années. Et donc, du coup, ma mère a une certaine exigence pour avoir des petits-enfants, elle met un peu la pression par rapport à ça. Et moi, je me sens parfois un peu frustrée parce que je suis étudiant, les autres sont dans la vie active, ils ont d'autres ambitions. Et donc, parfois, avec, par exemple, les demi-frères et sœurs de mes frères et sœurs, les copains-copines, ça crée un peu des tensions parce qu'ils ont du mal peut-être à appréhender un nouveau membre de la famille, c'est-à-dire moi. Et en fait, parfois, il y a peut-être des mots ou des phrases qui sont mal reçus. Moi, des fois, j'avais l'impression que mon beau-frère était un peu homophobe ou machiste dans ses expressions. Et ça me déplaisait. Après, je n'osais pas forcément lui dire en face. Mais sur des coups de colère, ça arrivait parfois d'avoir un peu ce genre d'argument face à ma sœur ou face à lui directement. Et c'est vrai que le fait que ça crée des tensions, juste par rapport à une orientation sexuelle, c'est rien qu'avant faire la déclaration de dire « oui, je suis gay », c'est un peu compliqué parce que, à la limite, j'ai l'impression que dans une famille comme ça, un peu hétéronormée, ça serait un peu un argument. C'est quelque chose qui nous définirait complètement, le fait d'être homosexuel. Sauf que ça ne devrait pas. En fait, on a le droit d'être qui on est et on n'a pas besoin de se justifier. Et puis, si parfois il y a des problèmes de compréhension ou des petites tensions dans la famille, ça ne devrait pas être lié forcément à notre homosexualité. On n'est pas plus hystérique que d'autres. Parce que moi, c'est un peu l'image qu'on m'accolait à être celui qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, être très sensible. Et pour eux, c'était problématique parce que mon père me disait tout le temps « bah, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être trop sensible, il ne faut pas craquer ». Donc ça m'a aidé, hein, ça m'a donné des points positifs pour réussir mes examens ou d'autres choses comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, parfois, c'est un peu dur parce que quand on a besoin un peu de réconfort, bah, on ne l'a pas forcément. Donc c'est pour ça que ça peut pousser plein de jeunes à ne pas forcément avoir la volonté ou l'envie de faire leur coming out parce qu'ils sont bloqués par rapport à cette sphère familiale, en fait.
Et du coup, par rapport à ça, pas vivre aussi pleinement, en fait, sa sexualité. Si tu te sens obligé de te cacher, plus ou moins, de ne pas pouvoir révéler à ta famille, c'est aussi compliqué.
Bah, c'est sûr que ça bloque parce que, par exemple, on attend, il y a des moments où il y a peut-être des moments un peu plus doux, on penserait que c'est le bon moment, sauf qu'il n'y a jamais de bon moment, techniquement. Et en fait, il y a un mois et demi, on est parti en vacances avec mes parents et ma grand-mère à Rivesaltes, dans le sud de la France, à côté de Perpignan. Et pendant une demi-heure, j'ai décidé d'aller me balader dans le village. J'étais au téléphone avec un ami, avec mes écouteurs. Donc, j'étais dans l'environnement, mais pas forcément conscient et concentré par rapport aux événements autour. Et en fait, au bout d'un moment, chose que je ne pensais pas qu'il arriverait un jour, mais tout arrive, un jeune homme de, je pense, 17-18 ans est venu vers moi, vers l'arrière. J'ai à peine senti ses pas. Ou après, il m'a pris par le col, il m'a mis sur le trottoir assez violemment où je suis tombé un peu sur les fesses, dans un sens propre et sens figuré. Et donc, ça m'a fait mal sur le moment. Ensuite, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait, s'il voulait me voler mon portefeuille ou mon téléphone. Non, que nenni. Il m'a donné des coups de pied à la tête, etc. J'ai essayé de me défendre comme j'ai pu avec mes bras. Mais je sais pas, j'ai senti une haine alors que je n'avais rien fait. J'avais été moi-même. Et il y avait sa sœur ou sa copine à l'arrière. J'ai eu le temps juste de glisser un petit œil. Et au bout d'un moment, elle lui a dit « arrête, reviens ». Et là, il a laissé deux ou trois coups encore et il m'a donné deux insultes à la fin assez homophobes. Et sur le moment, c'est plutôt ça qui m'a un peu creusé et qui m'a affecté. Parce qu'évidemment, se faire agresser dans la rue, déjà, c'est quelque chose. Et puis ensuite, quand il y a les mots qui vont avec, on se dit certes, ça arrive, mais il ne faut pas être non plus fataliste. C'est certes pas normal. Après, il faut, je pense, aller de l'avant. Ensuite, je suis revenu au gîte où il y avait mes parents. Déjà, je me suis fait un peu un guirlandais parce que j'étais arrivé 15 minutes en retard pour le repas, ce qui pour mes parents n'était pas normal et pas poli pour l'autre qui nous accueillait. J'ai expliqué brièvement la situation. Ils n'ont pas trouvé opportun d'aller à l'hôpital ou d'aller porter plainte en allant au commissariat. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je fais autrement. Ça ne m'attriste pas. Du moins, il faut passer de l'avant, même si le repas était un peu gorge serrée, c'était pas facile, surtout que ça jetait un froid. Et ensuite, on en a parlé avec mes parents, etc. C'est important pour moi de dire les insultes que j'ai reçues, parce que c'est pas normal en 2023 de recevoir ça, j'en suis conscient. Même si j'essaye de ne pas dramatiser la chose et aller de l'avant. Et puis il faut pas non plus être triste plus que ça. On se construit par rapport à ça. Et ensuite, on en a reparlé avec mes parents, mais de manière assez brève. Et en fait, on parlait tout à l'heure de tabou et je ressentais concrètement un certain tabou parce que c'est un sujet quand même large. J'en ai jamais parlé à mes parents, donc j'avais plein de choses à leur dire par rapport à ma sexualité. Et puis, c'est normal, les parents sont un peu curieux de savoir un peu notre vie amoureuse ou vie sexuelle, entre guillemets, sans rentrer dans les détails. Sauf que, bah non, à cause de ce tabou-là, il y a toujours une barrière qui se hisse. Et parfois, c'est un peu... Bah, on arrive à se construire, comme je disais, mais il y a une frustration, voilà le mot.
La frustration de ne pas être entendu.
Bah, être entendu, oui, mais peut-être pas être compris ou être accepté, mais... Parfois, il y a une certaine blessure parce que quand il y a eu des tensions quelques semaines après avec mon père et je lui ai dit bah, pourquoi tu as été violent, etc. Parce que ça arrivait souvent. Je lui ai dit bah, quand même, après avoir eu des coups et avoir été agressé de manière homophobe, c'est quand même pas très malin et très distingué d'avoir été à nouveau violent avec moi. Donc là, j'ai déposé main courante parce que c'était pas la première fois et je pense qu'il fallait marquer le coup. J'ai jamais eu de discussion avec lui depuis un mois et ni de pardon. Donc je pense qu'il y a plein d'autres jeunes aussi, justement, bon, j'en connais, qui quittent le milieu familial parce qu'ils n'en peuvent plus, qui sont détachés fiscalement de leurs parents. Voilà, ça c'est pour le pire. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de concilier, de discuter avec les gens. Je pense qu'aussi, il ne faut pas voir ceux qui sont entre guillemets agresseurs comme forcément les méchants loups. Évidemment, ils font des gestes mauvais, mais il faut essayer de discuter avec eux et de comprendre pourquoi ils font ça. Alors parfois, ils ne sont pas communicants et ils ne veulent pas aller de l'avant, mais il y a des structures qui peuvent aider. Alors moi, je n'ai pas forcément sollicité ça parce que je n'en suis pas au point où ça me bloque vraiment au quotidien parce que mes parents me soutiennent encore financièrement. Donc il y a plein de paradoxes, mais voilà, ils sont quand même là. Mais psychologiquement, non. Mais ça, je l'ai compris depuis très longtemps. Donc, ça va. Mais après, ça dépend de chacun. Il y en a qui sont plus ou moins forts ou plus ou moins résilients. Et c'est vrai que, par exemple, dans mes classes, parfois, j'ai eu des gens qui étaient trans et qui ne parlent plus à leurs parents depuis qu'ils ont fait leur coming out, entre guillemets. Donc, ça pose question en France. Et puis, on pense que la France est assez ouverte d'esprit sur ces questions-là. Moi, je suis parti en Hongrie l'an dernier. Je me suis rendu compte que, en fait, en Hongrie, certes, il y avait un tabou, mais il y avait une acceptation. Ils le savaient, hein, je pense que j'étais homosexuel, mais on ne m'a jamais fait la remarque. Alors qu'en France, comme on préfère parler à gorge déployée plus facilement de ce genre de sujet, parfois, il y a des mots blessants qui sortent. Et en fait, ce n'est pas forcément dans une visée bienveillante, comme je disais tout à l'heure.
Voilà, ton témoignage vient aussi de nous dire que voilà, nous, le but de notre travail, c'est aussi faire comprendre aussi s'il y a des parents qui pouvaient entendre aussi ces discours, qu'il y a d'autres moyens en fait d'agir. Il y a aussi la parole. C'est hyper important de pouvoir dialoguer, de pouvoir comprendre ce que c'est. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des parents qui ont une réaction de rejet par rapport à l'inconnu aussi, d'avoir un enfant qui est différent, entre guillemets, parce que ça fait peur. Ils se disent, mais le regard des autres aussi. Donc il y a toute cette méconnaissance en fait de la situation. Donc le fait d'aider, d'accompagner aussi des parents, ça peut être aussi important. Alors, en effet, il y a plein de structures qui existent. Hein. Il y a des associations qui accompagnent aussi les parents à prendre conscience et d'aider en fait leurs enfants. Donc voilà. Merci pour ton témoignage.
Il y a quand même une ambivalence comme, que je peux noter dans le coming out, c'est-à-dire que il y a ce désir de libération et de soulagement. Mais à la fois, la peur de la violence de l'autre, il peut y avoir lors de cette annonce. Quoi. C'est à la fois ces deux choses-là. C'est-à-dire,
Pour moi, c'était peut-être pas un soulagement, parce que je m'assumais, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette volonté parfois de partage. Donc pas forcément de libération, mais partager en fait qui on est par rapport à ses proches. Et il y a cette frustration parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu. Même si on se dit, bon, bah, je suis comme je suis, je fonce tête baissée, puis on s'en fiche du jugement des autres. Mais c'est vrai que ça peut paraître un blocage et c'est un problème parce qu'on n'est pas forcément accompagné. L'éducation sexuelle est quand même un peu maigre aussi dans les programmes scolaires, même s'il y en a. Mais parfois, moi, au lycée, je ne me sentais pas à l'aise à parler de ce genre de sujet. Il faut attendre d'être un peu plus mature, avoir plus de connaissances. J'ai fait des études un peu sur le sujet, études de genre, etc. Et au début, ça me faisait peur, ce genre de licence. À la rentrée, la première semaine, je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombé? Mais en fait, ça fait réaliser des choses, ça fait réaliser qui on est. Alors, je ne dis pas que tout le monde est obligé de faire des études de sociologie pour faire son coming out, ce n'est pas du tout ça le message. Mais je pense que justement, il faut éduquer et sensibiliser. Et il y a plein de manières pour faire ça, parce que les gens ont besoin de choses marquantes. Moi, j'ai été marqué au tout début de ma licence par mes professeurs qui étaient très ouverts d'esprit, les thématiques abordées, l'environnement de universitaire dans lequel j'étais à Lille qui n'était pas du tout pareil qu'ici à Orléans. Et ça réveille, ça fait prendre des consciences. Mais je pense qu'il y a besoin de ce déclic. Et c'est justement le rôle du gouvernement, techniquement, d'accompagner sur ces questions-là. Et après, chacun fait ce qu'il veut et prend sa décision et est libre à son libre arbitre, bien sûr.
Alors, tout cela nous interroge aussi sur la place de nos corps dans nos sociétés, de nos corps et des identités qu'ils referment. C'est-à-dire que le rapport à l'autre et au corps de l'autre, justement, puisque alors il y a un mot très fort que tu as employé, Lucas, tout à l'heure, tu as parlé de haine. Alors, je ne savais pas si tu parlais de celle de la société envers toi, de toi envers la société ou de toi envers toi-même. En tout cas, toujours de haine, on pourrait opposer le mot désamour, justement, de ces corps que les adolescents peuvent apprennent à incarner, justement, où il y a des questionnements à l'adolescence. Quel est ce corps en changement? Qu'est-ce qu'un corps d'homme? Qu'est-ce qu'un corps de femme? Et quelle sexualité est liée à ce corps, et j'allais dire, comment dire, une sorte de d'injonction sociale à incarner les corps de manière dite normée, normale. Tu as un corps d'homme et donc tu seras hétérosexuel, tu as un corps de femme donc tu seras hétérosexuel. Une question qui nous concerne toutes et tous, parce que donc, tu nous parlais de ces études de genre que tu as faites, Lucas, mais qui concerne tous les adolescents, adolescentes. Et donc, je pense par exemple à ces jeunes hommes qui se posent des questions sur leur corps et sur le corps des autres, et peut-être même de leur père, et qui, à cause d'injonctions sociales haineuses, discriminantes, homophobes, n'explorent pas cette part de ce qui pourrait être leur identité. Alors, je ne parle pas d'homosexualité refoulée, mais peut-être d'homosexualité non explorée. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la place du corps dans nos sociétés. Cette injonction à être, à ce que les corps soient, c'est s'émanciper, se poser ces questions ne concerne pas que les personnes qui seraient dites concernées par ces identités. Enfin, ça nous concerne tous, non ?
Oui, après, le souci, c'est que dans les cours d'éducation sexuelle qu'on a, et puis souvent dans les médias, la façon dont c'est abordé de façon générale, il y a aussi énormément de termes et énormément de confusion dans les termes. C'est-à-dire qu'on ne présente pas différentes grilles. Enfin, il faut distinguer à la fois le sexe, qui sont les parties biologiques que chacun a. Il faut distinguer l'orientation sexuelle.
Alors ça, c'est la dimension, j'allais dire, animale, de reproduction, l'homme, la femme.
Ouais, c'est surtout des distinctions qui sont biologiques. Mmh. Enfin, soit on est... moi, je préfère utiliser mâle.
Mâle et femelle.
Femelle ou intersexe.
Évidemment, enfin, évidemment.
On a ces trois possibilités, biologiquement parlant. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a l'orientation sexuelle. Soit on est hétéro, soit on peut être bi, soit on peut être homosexuel. Voilà. Après, je ne m'y connais pas assez pour aller plus en profondeur. Et moi-même, parfois, je me perds dans les termes. Et après, troisième étape, on a le genre, qui est complètement différent de l'orientation sexuelle ou du sexe. Et dans la question du genre, il y a la façon dont je m'exprime aux autres et dont je suis perçu par les autres. Ça, c'est l'expression de genre. Donc, est-ce que je vais m'exprimer d'une façon plutôt féminine? Est-ce que je vais m'exprimer d'une façon plutôt masculine? Ou est-ce que je vais m'exprimer d'une façon plutôt androgyne pour les autres? Voilà, donc ça c'est plutôt l'expression de genre. Et après, on a l'identité de genre.
Qui passe par le corps, l'expression de genre?
L'expression de genre, elle passe par le corps, mais c'est les autres.
Bien
c'est ce
sûr.
Que les autres perçoivent de moi. Mmh. Alors que l'identité de genre, on est dans la case genre, mais la case genre, on la découpe en deux, avec expression de genre et identité de genre. Et dans identité de genre, c'est comment moi, je m'identifie à ce que les autres perçoivent. Ça peut être complètement en décalage. Est-ce que les autres, est-ce que moi, pardon, je me perçois homme? Est-ce que je me perçois plutôt femme? Ou est-ce que je me perçois plutôt androgyne? Et dans l'expression, la façon dont les autres peuvent me percevoir et la façon dont moi je m'identifie, ça peut être complètement différent. Par exemple, moi dans la vie, je sais que les gens me perçoivent plutôt de façon efféminée. Moi dans ma tête, je suis pas efféminée, je suis homme. Et tant pis si les autres sont pas d'accord. Mais rien que d'avoir eu cette distinction, cette clarification, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Enfin, j'ai appris au fur et à mesure. Et puis, je me suis renseigné, parce qu'on a le droit de se renseigner. Vous avez le droit de vous renseigner. Mais ça, en fait, c'est pas des cases pour embêter les gens. Et si vous avez pas envie de faire ce travail sur vous-même, personne ne vous oblige parce qu'il y a ces cases. C'est juste que pour certaines personnes, ça peut aider de comprendre comment les autres me perçoivent. Enfin, moi, ça m'a fait le plus grand bien du monde de me dire « Oh là là, mais en fait, je ne suis pas du tout efféminée. C'est juste les gens qui me perçoivent comme ça. Mais je n'ai pas à me considérer comme efféminée parce que les gens me considèrent comme efféminée. »
C'est parce qu'en fait, justement, la société a toujours formalisé l'homme comme étant un homme, mais homme viril. Et on n'a jamais conçu un homme qui pouvait avoir des côtés féminins, un côté voilà, avec de la grâce, avec tout ça. C'est vrai que ça a toujours été une représentation d'un homme voilà, mâle.
Oui, Lucas.
Bah après, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup mis dans des cases. Parce que, par exemple, on va se dire, il y a des clichés, hein, que l'homme homosexuel aurait plus d'amis féminins, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Ensuite, comme tu disais, si deux hommes sont très proches, on va forcément penser qu'ils sont en couple. Parce qu'en fait, évidemment, je trouve que pour les hétéros ou même pour d'autres, les couples homosexuels, ça fait un peu fantasmer. Moi, on m'a quand même dit dans ma famille qu'ils n'étaient pas homophobes parce qu'ils avaient des amis gays. Hein. Alors, ça fait un peu le vieux truc raciste du Rassemblement national. Donc, je trouve ça un petit peu choquant pour des personnes qui se disent républicains, libéraux et assez ouverts d'esprit, le fameux mot qu'on aime utiliser à Uéadia. Et ça pose problème parce que pour moi, on ne devrait pas faire la différence dans notre pensée entre un mariage homosexuel ou un couple homosexuel et un couple hétéro. Donc, évidemment que ça crée des dissensus dans la société.
Il y a encore le poids des traditions, des cultures, des institutions.
Oui, et oui.
Et de la religion.
Et de la religion.
Et de la religion qui nous pèse encore.
Bien sûr.
On voit qu'au fur et à mesure, ça s'étiole un peu et qu'on peut prendre notre place, avoir notre place et se libérer un peu de tout ça, quoi, de ce poids.
Alors, pas de jeu de mots coquin, il s'agissait simplement voilà, de faire un préliminaire à l'introduction de l'émission qui va suivre, que vous allez écouter, et qui va, j'en suis sûr, susciter de nombreuses interrogations chez les auditeurs, auditrices, auditrices, et à celles et ceux qui, de l'autre côté du poste, là-bas, à l'École régionale du travail social, poursuivront ce débat. Merci à Lucas, Rodrigue, Samuel et Jonathan.
Merci.
Et à très bientôt sur Radio Campus 88.3.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Silhouette, soap wet, stretched out on a lawn, no movement. So I step close, just to check for a breath of repose, as you might guess. A suspect, no signs of life, but some signs are left by the suspect. Now I regret ever touching her neck, cause she might have been alive, but I had to check. Now it's heavy on my mind, it wasn't the first time. Wheel up, come back, rewind, spin the clock to her earlier time, where we rub hips to the baseline, and I touched her neck for the first time. Yeah, we rub hips to the baseline, and I touched her neck for the first time. It was round about midnight. It was round about midnight. 3rd July, she said independent.
evidence was making a high. But I'm not a patriot, I didn't know why. She was so emotional with tears in her eyes. Time to make a move, I realize. So I grabbed the hips real close to mine and sung, come baby girl, just ease your mind. Every trouble in your world right now is mine. Let's dance now, talk another time. Of course, baby, fine, ain't nothing to it. Let your body go and let the beat do it. And so the beat did it, and we did it. Learn names while we was intimate. Yeah, the beat did it while we did it. I said, what's your name while I was deep in it? Yeah, I was deep in it. July 4th, midday of course. We wake up late, feeling sore. Her back was turned, you want more? Before I could speak though, see a little scar on the back of her neck. It wasn't that far, so I stroked it. What you touching me for? She objected. I'm like, after last night, is your mind right? Matter of fact, it's not, but we can talk right. I think we should, she said good. Not all ill shit come from the hood, from a place that's far from here. And a whole bunch of girls leave every year. Cried another tear as she spoke to me about the old and the brand new slavery. These rich men ain't raping me. Nah, I'm theirs, they paid for me. So I came to the land of the free. But there's a microchip in the scar you see. And I can feel their poisons taming me. Even in the US, they'll come for me. Cause I can feel their poisons taming me. I'm a slave in the 21st century. Slave in the 21st century. I'm like, wait, stop, I know a good doc. I call him up, he'll help us out. She agreed, but on her face was doubt. In the car, she sleeps, I drive. Wakes up, just we arrive. Nice home in the countryside. It's a 4-hour trip, now it's almost 5. Doc is home, with guests inside. At the door, I'm anxious, pacing. Hoping Doc can help my patient. I'll explain the situation. He'll help us out with no hesitation. Hi, Mad Op, what's up, Doc? Shake his hand and proceed to talk. I run it all down word for word. He smiles and eases my nerves. Said, come on in, nap and bring the girl. We stepped into a whole new world. Went to the car and got the girl. We stepped into a whole new world. Had cocktails and good food, so we ate good and drank good, laughed loud and felt good. Pounds away from the stress of the hood, on a plush couch now by a fireplace. A glance at my guest, strange look on her face. Why the hell did we come to this place? I jump up to search the dock. See it's midnight as it passes the clock. See shadows in the kitchen, I can hear them talk about implants and time frames and heartbeats. It might remain. I felt a sharp blow and a deep pain penetrating my skull and reaching my brain. Yeah, I fell hard like thick rain. Consciousness I would not regain until at dawn. Saw a silhouette, soaked wet, stretched out on a lawn, no movement. So I stepped close just to check for a breath of repose, as you might guess. A suspect, no signs of life, but some signs are left by the suspect.
Golden paint over the
C'est la nouveauté, du jour. Que des nouveautés sur Radio Campus. Tu connais pas ? Normal. C'est la nouveauté.
My fingers after I cut all the lines. I still don't mend my dignity and all my time. Maybe I don't wanna go to the gym. Guess what, Rick? I don't wanna get super thin. Maybe I'm dumb in the morning to shave my legs. And maybe I use feminism as a way to relate. We'll be right back.
friend, my friend.